bonsoir et bienvenue dans cette émission. Des bandits armés ont emporté mercredi 22 octobre une somme de 8 000 $. Une note en franc congolais ainsi que plusieurs téléphones portables lors du braquage d'un shop situé dans les quartiers Bibois, commune de Lancelé, dans la ville de Kinshasa. Ce drame a été confirmé par le bourgmestre de cette municipalité qui a précisé qu'il n'y a pas eu de pertes en vie humaine. Il a rapporté que la police nationale congolaise n'a pas pu intervenir à temps. Le 16 octobre dernier, un autre braquage a eu lieu à la Robanque de la place Victoire dans la commune de Kassavubu. Face à la recrudescence des braquages à Kinshasa, la plateforme Lamuka recommande au gouvernement de doter la police nationale congolaise de moyens conséquents. Cette plateforme de l'opposition a fait cette mise au point dans une déclaration rendue publique le jeudi 23 octobre 2025 à Kinshasa. Pour sa part, le gouvernement congolais s'est dit préoccupé par le regain des braquages dans les pays, particulièrement à Kinshasa. Il indique avoir pris des mesures pour éradiquer ce phénomène qui prend de l'ampleur à Kinshasa et dans d'autres villes de la RDC. Quelle analyse faire du regain des braquages à Kinshasa et dans certaines autres villes de la RDC? C'est l'objet du débat de ce soir. Et nous recevons ici au studio Jeff Lushima. Il est conseiller du pôle juridique chargé des questions du banditisme urbain et juridique du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières. Bonsoir, monsieur le conseiller Jeff Lushima.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Et aussi au studio, Prince Epengue, il est président du parti politique ADD Congo et porte-parole de la coalition Lamuka. Bonsoir, monsieur Prince Epengue.
Bonsoir, messieurs les journalistes.
Et en ligne, professeur Ildefonso Chinyama, il est criminologue, il est professeur à l'école de criminologie de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Bonsoir, professeur Ildefonso Chinyama.
Bonsoir.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
La criminalité urbaine prend une tournure inquiétante en République démocratique du Congo. À Kinshasa, comme à Mbujimayi, le récent braquage et violence relance le débat sur la sécurité dans les grandes agglomérations. Les détails avec Enoch Katumbi.
À Kinshasa, le procès d'Honorine Porsche se poursuit devant le tribunal militaire de la Gombe. Cette Congolaise de nationalité allemande est accusée d'avoir dirigé une tentative de braquage de la Robin Place Victoire le 16 octobre 2025, où 10 500 $ ont été dérobés. Elle répond des vols à main armée, terrorisme et association des malfaiteurs, mais son arrestation a provoqué un tollé. Des vidéos la montrant dénudée ont circulé, poussant la justice militaire à poursuivre 8 militaires des FRDC pour traitement inhumain et dégradant. Toujours à Kinshasa, outre l'affaire Honorine Porsche, un autre braquage a été signalé en Célé, où des hommes armés ont attaqué un shop à Bibois, emportant argent et téléphone. Ces faits confirment la montée des violences urbaines sur la ville. Pendant ce temps, en Mbujimayi, un policier a été abattu lors d'un braquage à la résidence du professeur Marcel Mbikaï, dans la commune de Bipemba. Les assaillants ont emporté des biens des valeurs. Dans la même nuit, un changeur de monnaie a été agressé à son domicile dans la commune de la Conchie et grièvement blessé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ces deux braquages survenus à quelques jours d'intervalle.
Merci à vous Enoch Katumbi. Jeff Lushima, vous êtes conseiller du pôle juridique chargé des questions du banditisme urbain et juridique du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières. Comment vous expliquez ces regains des braquages dans certaines villes de la RDC?
Bon, je sais qu'au bout du fil, nous avons un professeur de criminologie. J'ai eu affaire à ce département aussi et je suis en doctorat pour ça. On ne peut pas prétendre éliminer la criminalité en un clin d'œil. À tout instant qu'un système peut s'installer pour la protection des civils et de leurs biens, de l'autre côté, les criminels aussi développent un système qui pratiquement suit le processus aussi de sécurité. Et donc, cela ne veut pas dire que le service est défaillant, non. Donc, je ne saurais pas dire que j'explique, mais je dis la criminalité. Au bout du fil, il y a le prof qui me suit aussi. On ne peut jamais l'éliminer ou l'éradiquer en un clin d'œil.
Ou voilà. Mais on constate que moins d'une semaine après le braquage à Robank, sur la place Victoire, il y a eu un autre braquage.
Quelle analyse que vous faites du braquage de Robank? La police n'a pas intervenu?
Non, j'ai dit ceci, je n'ai pas fini ma question. C'est-à-dire que moins d'une semaine après ces braquages, il y a eu un autre braquage à Bibois. Et on a l'impression que l'armada, n'est-ce pas, qui était déployée à Victoire, n'a pas pu décourager les assaillants pour qu'ils aillent, n'est-ce pas, commettre leur forfait à Bibois. Et on a tout de suite, on se pose en fait la question de savoir si les bandits ont encore cette peur de la police.
Je vais vous rappeler, il y a de cela, je crois, un mois, on a y arrêté plus de 30 bandits de vol à main armée. Je ne sais pas si vous avez suivi les images. C'était devant le ministère de l'Intérieur.
Oui, on montre ça souvent quand on a arrêté les bandits.
En fait,
on les
ce sont des gens qui opèrent d'une manière transfrontalière. Il y a de cela, lorsqu'ils sont traqués ici à Kinshasa, ils se replient soit à Kwango, soit ils se replient à Matadi. Il y a de cela même qui vont jusqu'à Mwanda Boma et Konso. Et à un moment donné, ils font cet échange-là, ils traversent des zones de communes et de provinces. Alors, je ne justifie pas le fait qu'à Bibois, il y a eu une léthargie d'intervention de la police, et qu'à Victoire, il y a eu facilement, parce que vous comprenez aussi, dans les cadres où on se trouve à Victoire, c'est presque toutes les institutions qui sont loin de là. Et que Bibois, ça soit...
C'est beaucoup plus éloigné que...
C'est un quartier un peu plus éloigné. Et nul ne l'ignore, tout Congolais, même que ce soit de l'opposition comme du pouvoir, on a encore un problème d'effectif de la police. Ok? Et donc, il s'est fait que ces gens-là, ils ont opéré entre, je crois, 8h, 9h, 10h, qu'on a vu, tous on a vu les images. Malheureusement, je peux dire ainsi, peut-être que les voisins n'ont pas pu intervenir aussi, n'ont pas pu lancer l'alerte, parce que ce qui s'est passé à Victoire, c'est d'abord un seul policier qui a essayé de prendre son courage pour braver ses assaillants, ses malfrats ou ses délinquants. Et donc, c'est la même chose. Lorsque nous parlons souvent de la question sécuritaire, il y a eu, avec le VPM Jacqueline Chabani, on a lancé à Kinshasa, comme dans d'autres provinces, ce que nous appelons le comité local de sécurité. Ça veut dire que nous interpellons la population à se prendre en charge pour sa propre sécurité. Voyez-vous, les gens ont le temps de filmer, mais ils n'ont pas le temps d'appeler la police.
Voilà, mais ici la question c'est celle de savoir si les bandits ont encore peur, n'est-ce pas, des gendarmes, ont encore peur de la police, parce que logiquement, lorsque on a vu ce qui est l'armada qui était déployée à Robank, on se dirait que les gens, les bandits, peut-être qu'ils auraient et prochainement, ils hésiteraient, n'est-ce pas, pour passer, faire de telles opérations. Mais curieusement, une semaine après, oui, ils ont opéré, et en toute tranquillité,
est-ce que
la crainte de la police...
La dissuasion n'est pas forcément, lorsque vous... Même aux États-Unis, on tue à chaque instant. Mais cela n'empêche pas aux autres de tirer aussi sur les autres citoyens. Même dans le pays où il y a la forte sécurité, cela n'empêche pas. C'est-à-dire, un délinquant, lorsqu'il est délinquant, il a pris sa résolution de faire ce qu'il veut faire, il va le faire. Ce n'est pas parce qu'on a dissuadé à Victoire que ces gens-là vont se dire, non, Toba Temanam, non.
Alors, le gouvernement, au Conseil des ministres de vendredi dernier, le gouvernement a annoncé qu'il venait de prendre une série de mesures, n'est-ce pas, pour combattre ces phénomènes. Est-ce qu'on peut connaître déjà certaines de ces mesures?
Non, vous savez déjà, c'est une question sécuritaire. Comment vous donnez les mesures qui seront prises par le gouvernement? Parce que si on doit traquer un criminel, on ne va pas l'annoncer qu'on va faire ceci ou cela, pour que demain il prenne les mesures aussi à lui, à son niveau.
Et donc, la population...
On va rassurer la population parce que nous savons déjà que la
police.
Oui, effectivement, nous demandons à la population de participer à sa propre sécurité.
C'est pourquoi il faut l'impliquer aussi dans ces opérations.
Ils sont impliqués.
En annonçant certaines mesures.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
Évidemment, vous n'avez pas tout annoncé. Hein.
On n'annonce pas les mesures que la police va procéder. Mm-hmm. À supposer que si la police va boucler les quartiers Yolo, je dois leur dire que Yolo, on va boucler le mercredi. Ils vont tous partir. voyez-vous. Mais simplement, c'est que nous, là où on associe la police, c'est de dire la société civile comme les citoyens, c'est de dire lorsque vous voyez ou vous suspectez dans un coin XY que nous avons vu un citoyen ou parce qu'un citoyen c'est déjà quelqu'un qui a un peu de notion de la citoyenneté, nous avons vu des gens qui ne répondent pas dans le nombre de notre société et qui ne veulent pas se conformer dans notre société, en train de faire quelques activités aux réunions, veuillez les dénoncer. Ça, c'est ça la participation de la population pour sa propre sécurité. Plus vous dénoncez, plus vous donnez l'information à des personnes qui doivent agir, à ce moment-là, nous sommes tous efficaces.
Vous savez, on a toujours dit que les gens qui ont tenté, n'est-ce pas, d'informer la police lorsqu'ils se trouvaient devant des assaillants, ils témoignent en disant que quand ils appellent les numéros qui leur est communiqué par la police, ils appellent ces numéros, soit ils ne passent pas, soit ils passent, mais personne ne répond.
Bon, je n'ai pas de preuves contraires ou affirmatives bon, pour dire que c'est ça le cas. Comme vous l'avez dit, les gens le disent. Mais je dis...
Vous n'avez jamais appris cela?
Bon, c'est ce que j'ai dit. Nous savons tous, hein, quand on est dans la cité, il y a ceux-là qui affirment et il y a ceux-là qui n'affirment pas. Et c'est pour autant qu'on doit prendre comme thèse.
Alors, je ne dis pas qu'on prend ça comme thèse, mais... Lorsque vous avez parlé de l'arrestation, n'est-ce pas, des bandits, lorsqu'on arrête les bandits, souvent on trouve parmi ces bandits-là des policiers, des militaires. Alors, comment vous expliquez cette complicité entre les bandits et les forces de l'ordre?
Même dans la profession d'avocat que je suis, il y a des fausseurs.
Non, vous ne devez pas minimiser cela.
Non, je ne minimise pas.
Oui. Mais comment vous
expliquez? Je dis ceci simplement. Comment j'explique la présence de certains civiques policiers dans leur...
Voilà.
Naturellement, c'est parce que peut-être que quelqu'un n'est pas à sa place. Parce qu'il n'est pas à sa place. Parce qu'un policier qui a été formé, il sait que c'est la République qui me paye, qui me prend en charge, ne peut pas se comporter en un civique. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas à sa place. Et donc, lorsqu'il se retrouve dans ce groupe-là, il va subir la rigueur de la loi.
Alors, souvent, lorsque vous arrêtez ces assaillants, lorsqu'ils sont arrêtés, ils font des témoignages, ils parlent de leurs complices. Qu'est-ce que vous faites pour essayer de mettre la main à ces complices?
Monsieur le journaliste, moi-même ici, je peux te donner, sans te donner les détails. Au mois de l'année passée, le 8 mars, il y a eu des policiers qui ont utilisé même le véhicule officiel pour violer des femmes, quelques deux ou trois femmes. Mais on les a tous arrêtés, ils ont été jugés. Donc, ça veut dire que si nous tombons sur ces cas-là, avec la politique du vice-premier ministre de l'Intérieur, ce sont des gens qui n'échappent pas à la rigueur de la loi.
Voilà, vous avez dit qu'on ne peut pas prétendre éliminer la criminalité d'un coup d'œil. Mais pourquoi cette criminalité prend de l'ampleur actuellement? Est-ce que c'est lié à un fait?
La criminalité, c'est un phénomène social. Je l'ai dit, j'ai fait le droit, j'ai fait la criminologie. La criminalité, c'est un phénomène social. Qui, des fois, quelqu'un peut naître, même en Europe, vous le voyez, on te dit, ce monsieur a des séquelles parce qu'il a subi ceci dès son enfance. Ok? Donc, on ne peut pas parler de l'éradication, c'est là où j'ai dit...
Non, je ne parle pas de l'éradication.
Oui.
Mais j'ai dit, lorsque ça prend de l'ampleur...
Oui, lorsque
est-ce
ça...
Est-ce que vous, en tant que criminologue, vous, en tant que...
Lorsque ça prend de l'ampleur...
Oui.
C'est aussi en fait de la société. Ok? Il peut y avoir des mécontents qui prennent les armes, il peut y avoir des gens frustrés, il peut y avoir des gens qui chômèrent, il peut y avoir des gens qui ont des insuffisances, dirais-je, ou un problème d'équilibre psychopathologique ou quoi. Tout ça, ça rentre. Ce sont des gens. Donc la société est appelée à prendre en charge. Parce qu'une fois après l'arrestation, il ne suffit pas forcément d'arrêter.
Alors, est-ce que l'ampleur que prend ce phénomène actuellement ne vous interpelle?
Non, le phénomène n'a pas pris assez d'ampleur. Je l'ai dit, non, attends. Je ne minimise pas, mais je reconnais que il y a...
S'il faut faire la comparaison avec une certaine époque, on va se rendre compte...
Mais quelle époque vous faites allusion?
Mais prenons, disons, il y a de cela deux ou trois ans. ces phénomènes de braquage n'étaient pas vécus dans la ville de Kinshasa comme aujourd'hui.
Est-ce que vous savez qu'il y a eu de certains policiers qui ont quitté l'Est, qui sont ici?
Ah voilà, c'est pourquoi je vous ai dit, est-ce okay. que vous pouvez lier
vous
cette ampleur-là à un fait
donné? Vous savez qu'il y a certains militaires qui sont là, mais j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Et donc, nous c'est un travail qui est en train de se faire au sein du gouvernement. Je ne saurais pas dire ou justifier que réellement c'est à cause de cela, ok? Mais la police est en son rôle, je vous ai dit ici, celui qui avait braqué vers Upen, je crois, ou Badiading, ce monsieur a été retrouvé à Likasi. Vous comprenez comment il a traversé combien de communes, de zones ou de provinces? Aussi longtemps que nous sommes là, nous devons tous participer à notre propre sécurité. Mais c'est fait que aujourd'hui dans notre pays, les armes circulent d'une manière un peu non contrôlée. Mais cela n'empêche pas le travail de la police. Il y a certaines personnes qui ne savent pas comment ils arrivent à avoir ces armes-là, mais à chaque fois qu'il y a ces cas qui se posent...
Mais ces personnes, lorsque vous les arrêtez, elles ne vous disent pas comment ils ont obtenu ces armes?
En tout cas, la dernière fois, il y a de ceux-là qui disent « j'ai acheté ». Le cas du braquage qui s'est fait chez le boxeur là, de
Bakolé,
lorsqu'on a retracé ces gens, c'est par un téléphone qu'on a eu. Mais ils ont caché, c'était une arme qu'ils ont obtenue, je ne sais d'où. Donc, c'est là que j'ai dit, oui, je vous écoute.
Non, ça va.
C'est pour dire que les armes circulent, d'une manière irrégulière, mais il y a plusieurs services qui rentrent en jeu afin de traquer ces armes-là aussi. Parce que les armes sont recensées, mais que ça peut échapper à un moment donné. Notre pays aussi vaste que cela, nous devons tous reconnaître.
Merci. On donne aussi la parole au prince Epengé. Prince Epengé, vous êtes président du parti politique ADD Congo et porte-parole de la coalition Lamouka. Quelle analyse vous faites de ces regains de braquage dans certaines villes de la RDC?
Merci. Je vais d'abord commencer à poser les bases. Quelles sont les missions d'abord de la police? Parce que j'ai le privilège d'être avec un responsable du ministère de l'Intérieur ici. J'aurais souhaité qu'il nous rappelle, qu'il commence par nous rappeler les missions de la police. Faute de l'avoir fait, je vais m'en charger moi-même. La police nationale congolaise a entre autres les missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public. La mission de sécuriser les personnes et les biens. La mission de la prévention et répression des infractions, ainsi que la protection des institutions. Et donc, eu égard à ces missions-là, nous pouvons juger notre police nationale congolaise si elle fait son travail. Parce que, comme je viens de le dire, le maintien de l'ordre, y compris son rétablissement, c'est une mission qui est dévolue à la police. La sécurité des personnes et de leurs biens, c'est la mission qui est dévolue à la police. Et qui gère la police? C'est notre frère qui est en face de nous ce soir, avec son chef acteur Jacquemin Chabani. Je vais parler un peu en termes de statistiques. J'ai des chiffres avec moi. Je vais prendre la commune de Selembao. J'y étais dernièrement pour installer la fédération ADD Congo, mon parti à Selembao.
Selembao, ici à Kinshasa.
Ici à Kinshasa, une ville qui est à le centre de la ville de Kinshasa. Et je vais donner les références au cas où notre frère du ministère de l'Intérieur n'en a pas. Il peut toujours aller regarder. C'est les données nous fournies par agence congolaise de presse. Au mois de septembre 2025, commune Selembao. La commune de Selembao a 23,3 km². Avec un effectif de 213 policiers. Donc, actifs comme inactifs.
213 policiers. Dans cette
commune
de
Selembao. Donc, comme je l'ai dit, commune Selembao.
213 policiers.
Effectif et logistique. En termes de superficie, Selembao a 23,3 km. Donc, kilomètres carrés. En termes d'effectifs, Selembao a 213 policiers. Donc, actifs comme inactifs. En termes d'armes, Selembao a 65 armes à feu.
Source, c'est l'ACP, c'est ça?
ACP, Agence Congolaise de Presse. Donc, septembre 2025. C'est ces données-là.
En termes d'armes, les armes?
65 armes à feu. En termes d'habitants, la commune de Selembao est estimée, en termes d'habitants, à 767 678 habitants. Je répète, la commune de Selembao, en termes d'estimation en nombre d'habitants, à 767 678 habitants. Ce qui nous donne un ratio de 3642 personnes par policier. Alors que la loi actuelle stipule que pour un policier, il nous faut 300 personnes.
Et il y a même des policiers qui n'auront pas d'armes parce que pour 213 policiers, il n'y a que 65 armes.
Exactement. Donc, la loi dit que pour 300 personnes, un policier. Malheureusement, sous le régime Tshisekedi, on a pour un policier 3642 personnes. Donc, ça veut dire 10 fois le nombre de policiers qu'il faut pour, le nombre de personnes qu'il faut pour un policier. Ce décor que je vais planter peut nous donner une certaine idée sur comment la République est gérée. Est-ce que la police est censée faire son travail? Avant de continuer, je voudrais revenir un peu.
Oui, la police est censée faire son travail, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Est-ce qu'elle fait son travail? C'est ça la question
non.
Qu'on va se poser maintenant.
Mais c'est pourquoi je vous ai planté le décor. La police a la mission de maintenir l'ordre et le rétablir. S'il est violé, de sécuriser les personnes et les biens, est-ce qu'il est fait? Au vu des braquages que nous vivons à Kinshasa. La police a la mission de la prévention et de la répression des infractions. Est-ce qu'elle le fait? Si elle le fait, est-ce qu'elle le fait bien? Donc, bref, avant de continuer...
Mais vous avez suivi le conseiller qui a parlé d'un problème d'effectif.
Mais bien sûr.
Un problème connu de tous.
Mais bien sûr, mais le conseiller est là, il conseille pour qu'on puisse remédier à ce problème. C'est à lui de nous dire... Avec Jacquemin, je crois qu'il est conseiller Jacquemin. Oui. Avec Jacquemin, depuis qu'il sera, ça fait déjà combien de mois? Qu'ont-il fait? Moi, j'aurais souhaité qu'il nous amène des chiffres. Moi, de la Mouka de l'opposition, j'ai amené des chiffres. Lui, il n'en a pas. Maintenant, moi, je vais revenir un peu à ce qu'il a dit. Je ne vais pas laisser passer ça. Il a dit que nous interpellons la population à se prendre en charge.
Et à collaborer avec la police.
Oui, et ça, j'ai aimé ça. Prince Pengue, je l'ai fait. J'étais à Selembao. Les jeunes gens sont venus me dire « Molobela peuple, Prince Pengue, regardez. » Non, on a des cicatrices partout, des menottes, des militaires qui nous dérangent, etc. etc. Je l'ai redit, vous devez coopérer avec les forces de l'ordre. Vous devez dénoncer ceux d'entre vous qui cambiolent des maisons, qui braquent. Ça, c'est bien de le dire. Mais en même temps, il faut savoir que la population a peur de dénoncer. Pourquoi elle a peur de dénoncer? Pourquoi elle a peur de coopérer? Parce que très souvent, quand la population coopère avec les éléments de la police, quelques mois, quand on arrête les gens, ces gens vont en prison, font 2 semaines et ressortent de prison. Et du coup, il y a des représailles. La population a peur du retour de la flamme. On a vu des gens qui ont braqué l'année passée. Nous naguer dans les réseaux sociaux. Quelqu'un qu'on avait braqué, plutôt quelqu'un qu'on avait attrapé avec une arme AK-47 en train de braquer en flagrant délit. On l'amène en prison. Les gars-là ne font même pas 6 mois. Il est encore en circulation. Et la population qui avait dénoncé, c'est elle maintenant qui est inquiétée. C'est elle maintenant qui doit vivre avec la peur au ventre de se faire tuer.
Et la faute à qui?
La faute à l'État.
Voilà.
La faute au régime, tu sais ce qu'il dit. Autre élément. Et là, je ne suis pas du tout d'accord avec mon frère de l'Union Sacrée qui a dit que la criminalité est un phénomène social. Et alors? C'est un phénomène social. Nous le savons. Et alors? Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas l'éradiquer? Si la criminalité est un phénomène social, on ne peut pas y mettre fin. Je peux vous citer les éléments des pays où un chef d'État est arrivé et a mis fin à l'insécurité. Au Salvador, avec Bukele. Vous avez vu la répression que Salvador a fait ?
Ça a pris
la guerre qu'il a déclarée.
Ça a pris combien de temps ?
Papa, il a été réélu. Il vient même d'être réélu parce qu'il a mené un combat sans merci contre la criminalité.
Et donc,
on peut mettre fin à la criminalité.
Vous voulez dire
mais
que...
il faut seulement tourner son...
Vous, sa vous voulez dire que...
Il y a des moyens.
C'est la volonté qui manque.
Il n'y a pas que la volonté, parce qu'on peut avoir la volonté. Mais si on n'en a pas, on a pas les moyens de donner corps à sa volonté, avec la volonté, on ne peut pas tout changer.
Alors, vous avez même demandé à ce que le gouvernement puisse doter la police des moyens conséquents. Quels sont ces moyens?
Précisément. Je suis en train de venir.
Qui peut faire que la police puisse devenir aujourd'hui proactive?
Il a eu 15 minutes. Laissez-moi, je suis encore à ma 6e minute. Et je suis en train d'expliquer ceci. J'aurais souhaité que mon frère qui est en face de moi nous dise quelles sont les réformes entreprises depuis que l'IDP est au pouvoir. Je ne parle pas de M. Jacquemin. Jacquemin est un monsieur intelligent. Il est capable de réformer la police. La question que je me pose est pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi n'est-il pas souvent sur le terrain? Je l'ai connu dans l'opposition, Jacquemin. C'est un monsieur qui a ses deux pieds sur terre. C'est un monsieur
qui
complet.
Qui vous dit qu'il n'est pas sur le terrain?
En tout cas, je ne le vois pas sur le terrain.
Et qui vous dit qu'il n'y a pas de réforme?
Je ne le vois pas sur le terrain parce que moi, Prince Peng, c'est un homme véritablement de terrain. Regardez, parce qu'il a dit que la criminalité est un phénomène social, comme pour dire, nous n'en pouvons rien. Si, monsieur, par définition, le pouvoir sert à quoi? Par définition, le pouvoir est une capacité. Quand Jacquemin Chaban était secrétaire général du DPS à l'époque, en 2011, quand nous étions ensemble avec eux, Jacquemin n'avait pas le pouvoir. En d'autres termes, n'avait pas la capacité d'influencer, d'échanger, d'ordonner, de se faire respecter. 14 ans après, Jacquemin a aujourd'hui la capacité. J'étais avec lui ici, ce plateau. À cette période-là, il n'avait pas encore la capacité. Devenu ministre de l'Intérieur, il a la capacité. Pourquoi faire? La capacité de réformer la police. La capacité de mettre fin à un recrutement à tour de bras. Où un jeune garçon disparaît de l'avenir pendant 3 jours et le 4e jour, il vous revient avec le galon de lieutenant à la police. Ça n'a pas de sens. Maintenant, Jacquemin a cette capacité de mettre fin à cela. Jacquemin a la capacité d'envoyer, de détecter les meilleurs éléments dans cette police-là. Parce qu'il y en a pour les recycler. Les envoyer en formation. Jacquemin a les moyens d'équiper la police. Elle a la capacité, comme je l'ai défini, le pouvoir par définition est une capacité. Jacquemin a la capacité de bien payer ses policiers. Mais il a aussi la capacité de sanctionner ceux-là qui se méconduisent. Je vais donner les statistiques. Un policier pour 3642 personnes. C'est inacceptable. Jacquemin a la capacité de faire respecter la loi pour que pour un policier qu'on ait 300 personnes et non 3600 personnes.
Vous semblez vous focaliser sur la personne de Jacquemin. En fait, ça c'est un problème multisectoriel. C'est-à-dire que ça ne dépend pas seulement de la personne de Jacquemin. Et puis Jacquemin fait partie d'un gouvernement, n'est-ce pas? Les actions d'une équipe gouvernementale, c'est des actions concertées. Il peut prendre des décisions. Mais pour que ces décisions puissent prendre corps, puissent se matérialiser, il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte, n'est-ce pas?
Alors, où il est ministre, où il ne l'est pas?
Il est ministre, mais il n'est pas l'unique décideur.
Je ne l'ai pas dit comme disait, je crois, Chirac. Je ne sais pas si c'est pas Chevènement qui disait, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Moi, Epengue, les jours où je suis ministre, j'ai un projet. Je suis président d'un parti politique à Dédé Congo. J'ai des réformes que j'ai prévues, j'amène au Conseil des ministres. Mes réformes ne passent pas.
Vous démissionnez?
Je démissionne.
Merci, on a compris.
Alors, si
on donne la parole,
si on ne lui donne pas les moyens de sa politique, si on n'écoute pas ses stratégies pour sécuriser les Quinois ou les Congolais en général, il sait ce qu'il doit faire. Maintenant, je reviens pour terminer à 30 secondes.
Allez-y,
c'est ce qui s'est passé à
Bibois.
Vous avez parlé de ce qui est passé à Bibwa, c'était le mercredi passé. Vous avez parlé du braquage de l'Eurobank, braquage de Bibwa. Ces braquages qui se font la journée. Toujours à Bibwa, la même semaine, j'ai aussi une très grande base. Beaucoup de cellules à Bibwa, du côté de Plaza, il y avait aussi un autre braquage. Les braquages se multiplient. C'est bien beau de demander à la population de coopérer. Et je suis d'accord. Nous sommes des leaders d'opinion, nous sommes des politiciens populaires. C'est de notre responsabilité de dire à la population, coopérer, allez voir la police. Mais quand ils vont voir la police, qu'est-ce que la police dit? Je suis seul. Un policier vous dit, je suis seul. Il y a un sous-effectif. Un policier vous dit, je ne me sens pas bien. Un policier vous dit, je n'ai qu'une seule arme. Je ne peux pas aller faire face à ces braqueurs. C'est-à-dire que ce sont des problèmes que normalement le ministère de l'Intérieur devrait, problème auquel il devait trouver solution. Ce n'est pas que je me focalise sur une seule personne, évidemment.
Si vous dites que les solutions ne sont pas en cours.
Il y a des réformes. Mais ça fait une année et demie qu'il y a des braquages.
Voilà, on va donner la parole au
président. Si c'est en cours, on verrait quand même que la situation est en train de s'améliorer. Si je parle ainsi, ce n'est pas parce que je ne veux pas que ça change. C'est parce que c'est notre rôle à nous de l'opposition, de mettre la pression sur les gouvernants pour qu'ils puissent faire leur boulot parce qu'ils sont payés pour ça.
Merci, vous êtes dans votre rôle. Professeur Ildefonso Chinyama, vous êtes criminologue, vous êtes professeur à l'école de criminologie de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Vous également, comment vous analysez ces regains de braquage dans certaines villes de la RDC?
Oui, je voudrais attirer l'attention des uns des autres sur le fait que quand on parle criminalité, il faut savoir que c'est un phénomène très complexe. Mais ici, ce que je comprends, c'est que nous parlons du braquage. Et quand on parle du braquage, dans le cas du banditisme urbain, le banditisme urbain, c'est un concept plus ou moins générique. C'est une forme de ce banditisme-là, mais qui est caractérisé généralement par des attaques violentes, souvent en main armée. Et les auteurs font souvent usage de la force pour dérober de l'argent et des biens de valeur. Généralement, ils le font à l'aide des armes à feu et causant parfois des pertes humaines. Alors, on est dans une situation où le phénomène dont nous parlons relève véritablement de la criminalité organisée, parce que souvent, les gens qui sont dans cette forme de délinquance-là agissent en groupe et c'est souvent des gangs où ils bénéficient d'une complicité quelque part. Alors, et donc, quand on parle de la criminalité, c'est un phénomène très général. Et quand le conseil dit la criminalité, c'est un phénomène social, il faut le comprendre dans le sens de dire il y a aucune société au monde où on ne trouve pas de criminels. Évidemment, vous pouvez penser, dire que vous avez combattu une forme de criminalité, mais attention, il existe d'autres formes de criminalité, parfois qu'on combat invisibilisé simplement, et par le fait de cette invisibilisation, on pense que ça n'existe pas. Alors, mais maintenant, on est dans cette forme de délinquance où les cibles, c'est souvent des agences financières, ou des personnes physiques soupçonnées avoir de l'argent ou des objets de valeur. Et généralement, on est dans une situation de psychose généralisée, dans une situation d'insécurité urbaine, où évidemment ces auteurs vont défier les autorités, parfois en semant le chaos dans les quartiers, etc. Bon. Il existe évidemment plusieurs facteurs, mais on doit comprendre d'abord que quand nous parlons sécurité, on vient de le dire, vous avez un triangle où vous avez les protégés, c'est-à-dire la population, mais vous avez aussi le protecteur, c'est le service de sécurité, mais dans un autre angle, vous avez les criminels. Alors, ce qui se passe dans la dynamique entre les criminels et les services de sécurité, c'est que les deux-là se surveillent mutuellement Et les criminels ont l'avantage de voir les services de sécurité parce qu'ils sont apparents. Et on peut le voir posé quelque part, ils sont assis, etc. Et généralement, partout au monde, les délinquants sont toujours en avance sur les systèmes sécuritaires parce que ils inventent toujours des stratégies pour pouvoir contourner les stratégies qui sont mises en place par les services de sécurité. Évidemment, le rôle du protégé, de la communauté qui est protégée, c'est justement aussi de participer à sa propre sécurité. On a parlé ici des dénonciations. Évidemment, il y a notre fondateur qui dit effectivement qu'il y a des conditions qu'il faut remplir pour que on atteigne les conditions maximales de ces dénonciations. Sinon, ces dénonciations n'arrivent pas à produire des effets attendus. Mais les services de sécurité, on a dit, on ne peut pas oublier les systèmes judiciaires, parce que si la police arrête, on l'a dit, on présente les délinquants dans les systèmes judiciaires, il est à la prison et puis il rentre. Bon, quand il sort, ce délinquant, on est dans la question de la récidive. Et parfois, ils sont libérés, mais ils se posent aussi la question de l'insertion sociale. Donc, quand les systèmes judiciaires dysfonctionnent, on est dans un système. Quand un maillon dysfonctionne, il fait dysfonctionner le système. Donc, la police peut mieux faire, mais quand la justice dysfonctionne, les choses ne vont pas toujours marcher comme on l'attend.
Et donc, même quand on dote, comme le propose le prince Epengue, quand on dote la police des moyens conséquents, cela ne suffit pas parce que les choses ne dépendent pas uniquement de la police. C'est un travail multisectoriel.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous regardez souvent ces délinquants qui sont dans le braquage, c'est évidemment parfois je ne dis pas que tous sont des repris de justice, mais beaucoup reviennent, on vient de le dire, ce sont des repris de justice. Mais ça, c'est un dysfonctionnement du système judiciaire. Et donc, le système sécuritaire ne sait pas gérer des choses comme ça. Et parfois, ça, il subit. C'est ainsi que quand on fait des réformes, on fait des réformes de manière plus ou moins globale. C'est-à-dire que il faut que quand le système sécuritaire fonctionne, les judiciaires aussi suivent et effectivement ça permet de bien gérer la question de la criminalité.
Alors,
mais attention, on est dans un contexte aussi social et économique qu'il ne faut pas ignorer, hein, qui est difficile. Vous aurez mieux fait d'avoir une police très bien équipée, organisée, mais faites attention. Quand le contexte économique où évoluent les gens, où le contexte social lui-même, de manière générale, est difficile. On vient de le dire, par exemple, caractérisé par la facilité d'accès aux armes, les jeunes n'ont plus d'accès à l'emploi, il y a prolifération des circulations des armes partout, etc. Mais écoutez, les jeunes qui n'ont pas de l'emploi et que les armes sont en train de circuler partout, ils ont beaucoup d'opportunités de les avoir. Mais c'est un contexte qui devient lui-même criminogène. Et vous savez que ça peut favoriser l'entrée des jeunes dans les gangs et dans une carrière délinquante. Mais évidemment, du côté des services de sécurité, on sent qu'il existe, on ne peut pas les nier, des dysfonctionnements des services de sécurité. Mais ces dysfonctionnements, à mon avis, il faut pas simplement les attribuer au régime actuel. Tous ces régimes qui se sont succédés ont été caractérisés par ce même dysfonctionnement. Mais ce qui compte effectivement, c'est de voir, on parle ici des réformes, c'est comment on peut réformer et gérer toutes ces lacunes institutionnelles. Par exemple, ce que moi j'ai observé, l'une des lacunes, c'est que la gestion des situations d'urgence pose quand même un problème. Quand il y a une attaque, quel est le comportement adopté par les services? On a vu par exemple une cacophonie des services qui arrivent sans aucune coordination sur le terrain. Et ça demande que d'organiser parfois des manœuvres, des entraînements réguliers pour savoir comment on gère les situations d'urgence, comment on fait face à des attaques, etc. Et parfois, lorsqu'il y a des alertes, les défis des services de sécurité, c'est comment réduire les temps d'intervention. Ça, c'est très important pour les services de sécurité. C'est-à-dire, on aura beau mieux créer les systèmes d'alerte, les gens peuvent téléphoner la police, etc. Mais est-ce que cette police est dans des conditions d'intervenir de manière à réduire les temps d'intervention? Vous savez, une ville comme Kinshasa, avec tout ce qu'on a comme embouteillage, c'est parfois difficile de réduire ce temps d'intervention. Or, ça compte ça dans la gestion généralement des crises. Vous avez la protection, vous avez au sein de la police maintenant des services spécialisés, notamment qui sont spécialisés dans la protection des institutions, on l'a dit. Mais attention, on peut, dans le cadre des renforcements de ces services, faire en sorte que on crée des unités spécialisées pour la protection spécifique des agents financiers. Et le protéger dans ces conditions-là, c'est justement ces agents financiers elles-mêmes qui doivent prendre aussi des dispositions pour s'autoprotéger. Notamment, on a tous ces dispositifs physiques de prévention situationnelle, etc. Et dans le cas de la police, on vient de le dire, ça demande quand même un appui institutionnel fort, la formation, les équipements doivent suivre, une bonne coordination, etc. Alors, mais il se pose aussi un certain problème dans le cadre de la collaboration entre services. Mais on sent effectivement parfois que ces services fonctionnent de manière trop cloisonnée. Il faut décloisonner les services. Par exemple, comment vous expliquez que dans un pays, on réforme la police, on réforme l'armée, on ne réforme pas les services de renseignement, on ne réforme pas la DGM? Ça pose quand même un sérieux problème parce que beaucoup, on vient de le dire, hein, ces gangs qui sont dans la criminalité organisée, ils sont parfois, c'est une criminalité transfrontalière, hein. Lorsque vos services d'immigration ne suivent pas, ne fonctionnent pas de manière efficace, évidemment, on a trop de problèmes liés à ça. Lorsque les renseignements ne suivent pas, on a trop de problèmes liés à ça. Mais il y a la question du fonctionnement des sociétés de sécurité privée. Vous savez que la police ne peut pas être partout. Et en lieu et place, notre pays a mis dans... Je vois qu'il y a un arrêté sur le fonctionnement des services de gardiennage. Mais attention, ces services de gardiennage sont parfois des multinationales. Ailleurs, quand vous allez, ces services sont armés. Mais quand vous venez chez nous, on les interdit d'avoir des armes.
Voilà. Ils sont vulnérables, en fait.
Ils sont vulnérables et généralement, ils bénéficient de l'appui de la police publique. Qui elles-mêmes déjà ont dit posent des problèmes. Voilà. Mais des affectations même à ces postes de protection, il y a trop de clientélisme à l'interne de la police. C'est pas toujours des gens efficaces qui sont affectés à ces postes de garde.
Merci pour
ça. Et ça pose quand même un sérieux problème. Mais ça demande quand même qu'on réfléchisse, etc. J'entendais ici parler des chiffres sur la criminalité. Mais on ne peut pas avoir des chiffres sur la criminalité dans la mesure où nous n'avons pas des observatoires des criminalités urbaines ici.
Ok, on a compris.
Donc, c'est ça.
Voilà. Donc, on donne maintenant la parole aux auditeurs hein, qui sont en train d'appeler pour donner leur point de vue par rapport à ces sujets. Et là, nous allons partir à Kisangani dans la province de la Tchopo. où nous appelle M. Bavis Lopindo. Il va réagir. Et M. Jeff Lushima, vous allez essayer de réagir à sa réflexion.
Bavis Lopindo, depuis la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo. La recrudescence de braquages à Kinshasa traduit une montée inquiétante de l'insécurité urbaine liée à la faiblesse des dispositifs de prévention et d'intervention policière. Le manque de moyens logistiques et humains au sein de la police nationale rend difficile la dissuasion des actes criminels malgré les déclarations des autorités. Le braquage ciblant de lieux stratégiques comme des banques ou Shop montre une organisation bien planifiée des malfaiteurs mettant à nu les failles en sécuritaire. La réaction tardive du gouvernement et l'absence de résultats visibles inquiètent la population. Le gouvernement saura-t-il réellement traduire ses engagements en actions concrètes et durables sur le terrain?
Monsieur Dieu Fou Lushima.
J'avoue que j'ai aimé que le professeur nous a donné tous.
Il défend Tchinyama.
Défend Tchinyama.
Il défend
Tchinyama. Je pense que mon frère congolais
Épingué,
en face de moi, Épingué, devrait aussi en tirer des leçons. On reste scientifique avant d'être politique. Moi, je ne suis pas venu faire un débat politique. Ça, je dois le dire. Comme conseiller, j'apporte ce que je peux amener comme...
Évidemment.
Bagage intellectuel auprès des décideurs.
Lui aussi est dans son rôle d'opposant.
J'ai aimé. Non, moi je ne fais pas la politique.
Voilà, vous avez raison. Oui, allez-y.
J'ai aimé ce que le prof a dit et je crois qu'il m'a au moins rejoint à plusieurs points, comme je l'ai dit. Je ne justifie pas et je ne le dis parce que je vis dans cette même société. J'ai passé plusieurs fois au Top Congo, j'ai reçu plusieurs appels aussi, parce que quand je parlais de Ndobo, l'opération Ndobo, les gens me retournaient des questions dans ce sens-là. Je crois que notre ami qui vient de parler de la faiblesse des dispositifs sécuritaires n'a pas peut-être pas suivi l'intervention du professeur. Il allait aussi être éclairé. Il a bien dit qu'il y a les protégés, les protecteurs et ceux qui sont les
incarnés.
Les assaillants. Voyez-vous ? C'est ça le triangle. La réalité de la criminalité, c'est celle-là. Donc, lorsqu'on on veut parler, on parle des chiffres de Selemba, ou on parle de la police, c'est normal. Mais je l'ai dit dès l'entrée des jeux, nous devons tous nous impliquer pour notre propre sécurité. Il ne faut pas venir jeter les pierres pour dire, vous ne faites rien, vous faites ceci. Mais sinon, on ne serait pas en train de surveiller sur la ville de Kinshasa. Vous prenez l'exemple d'un pays, Salvador, vous voulez copier ça sur Kinshasa ou Congo. Justifier que Tshisekedi ne travaille pas. Moi, je ne parle pas de Tshisekedi ici. Nous parlons d'une question qui nous lie, nous tous, comme citoyens d'abord. Et donc, restons comme citoyens et donnons des propositions qui peuvent faire en sorte qu'on avance ou qu'on recule. Je ne sais pas, le vœu de l'opposition.
Il estime que les choses n'ont pas évolué.
Les choses, je l'ai dit, hein, je ne réponds pas à lui, mais je réponds au client. Je vais aussi ramasser quelques réponses pour lui. Monsieur Jacquemin Chabani a proposé une réforme. Et si Prince Epengue le suit très bien, c'est à peine il y a 2 ou 3 mois, la session passée, que nous avions eu la loi de la programmation de la police. Mais qu'à cela ne tienne avant que la loi de la programmation ne soit aussi votée, ou le budget, disons, soit approuvé par les deux chambres, il avait déjà mis en mécanisme quelques réformes avec le moyen propre du ministère. C'est de mettre en place l'école de police de Kisangani. Qu'on a réhabilité. On a encore réhabilité ici Kasangoulou. Voyez-vous? Et donc, le recrutement doit se faire et on ne peut pas recruter les gens pour qu'on n'ait pas ni les loger, ni les nourrir, ni les mettre dans les conditions qu'il faut.
Tout se fait en fonction des moyens.
Tout se fait en fonction des moyens. Et donc, lui, comme leader et dirigeant demain, il doit comprendre cela. Parce que même dans son propre foyer, il ne peut pas envoyer son enfant à l'école qui rentrera à la maison sans manger. Il est parent, il le sait. Donc, on veut engager dans la police, on veut remettre la police à sa place, mais on y va step by step. Ne prenons pas l'exemple des autres, vivons notre réalité. Donc,
aussi longtemps qu'il y a des cas de braquage, oui. La population n'est pas.
Le prof vous a dit qu'il n'y a pas que le braquage comme criminalité. La criminalité a plusieurs. Il y a diverses formes.
Non, vous avez tendance à banaliser.
Je ne m'analyse pas.
Les gens sont en insécurité.
S'il vous plaît. Je ne banalise pas.
Oui.
Si vous avez vu vous-même au niveau de Victoire. Mmh. Est-ce que la population n'a pas participé à ce qui s'est passé à Victoire?
Si, d'une certaine manière.
D'une certaine manière.
Oui.
Et c'est ça une bonne analyse. Voyez-vous? C'est une bonne analyse. Il ne faut pas dire que la population est dans la peur, dans la psychose totale pour ne rien agir. Non. Nous voyons ici des fois dans nos cités, la population prendre en charge un délinquant. C'est cela que nous disons. C'est vrai qu'il y a un effet qu'on a dit, comme le prof l'a dit aussi. Il y a des cela qui dénoncent. Et demain, on se retrouve que le monsieur qui a été arrêté retourne à la cité. Et le prof a même dit, c'est un dysfonctionnement. La réforme ne peut pas se faire forcément à la police, c'est dans tout le secteur. Un État, c'est un ensemble d'un tout. Avoir les capacités, seul et sans les autres, vous ne ferez rien.
Merci. Merci, Prince Epengue. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis ici, à Kinshasa.
Je suis John Bakngala Mouloumé, depuis la ville province de Kinshasa. Il a félicité que l'État s'implique de cette affaire qui coûte la vie et beaucoup de pertes aux paisibles citoyens. La proposition de Lamouka est aussi encouragée. Mais il se pose une question de savoir s'il n'y a pas complicité, soit des autorités de la police avec des criminels, soit de la justice et le service des renseignements de notre pays. Plusieurs fois que les criminels sont arrêtés et jugés, ils font des révélations qui peuvent permettre aux autorités à éradiquer ces mouvements. Mais où vont ceux qui sont arrêtés et que font les autorités de leurs révélations?
Prince Epengue.
Écoutez, je crois que ce n'est pas vraiment une réaction. Il pousse à ce que les choses aillent de l'avant. Il constate, comme nous tous, que ça ne va pas sur le terrain. Donc, je suis d'accord avec lui. La question qu'il pose à la fin, c'est que ceux qui sont arrêtés partent où? Les sanctions suivent, mais quelques temps après, on voit les mêmes gens. C'est, je crois que c'est Général Mayel qui avait dit, quand l'armée n'arrive pas à mettre fin à l'insécurité, c'est que peut-être au sein de l'armée,
il y a des complices.
Il y a déjà. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, voyez-vous? Mais ce que moi, là où j'aimerais bien insister, c'est sur les moyens. Et tout le monde le dit et le répète, notre police est sous-équipée. Notre police est sous-payée. Et notre police n'a pas de moyens.
Oui,
et parlant des sous-équipements.
Vous avez suivi le conseiller Jeff Lushima qui parle de certaines réformes, n'est-ce pas, qui sont en cours, notamment le fait d'avoir doté au pays cette loi de programmation de la police.
bien sûr,
ça peut solutionner beaucoup de problèmes financiers, n'est-ce pas.
Et responsable politique que je suis, je la connais. La loi numéro 25-074, une loi pluriannuelle qui irait, je crois, de 2026 à 2030, de près de 2,5 milliards de dollars pour équiper la police et tout ça. Ça, c'est bien. Je crois que c'est une réforme majeure. Je ne vais pas faire le contresens de cette réforme, mais malheureusement, ce n'est pas maintenant que cette loi sera appliquée. Comme je vous l'ai dit, c'est de 2026 à 2030. Et 2,5 milliards, il faut aller les chercher. Voyez-vous? Mais immédiatement, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ma question est à ce niveau-là. Le fait que Jacquemin ait initié cette loi de programmation de la police, c'est une bonne chose. Mais immédiatement, qu'est-ce que l'on fait? Et le professeur a parlé de... Au contraire, je crois que le professeur m'a rejoint littéralement alors, parce qu'il s'appuie également sur le fait que les conditions sociales sont aussi à la base de...
C'est l'un des facteurs.
Oui, l'un des facteurs. Évidemment, la majorité des jeunes
qui n'ont pas
sont dans l'oisivité, et sont au chômage. Vous avez suivi la Banque mondiale qui vous dit, c'était je crois le mercredi passé, 85% des Congolais vivent avec moins de 3 dollars par jour. 28 millions vivent dans l'insécurité alimentaire. Dans ces conditions, et on comprend qu'il y a vraiment un véritable cocktail explosif.
Et donc vous comprenez que c'est un problème.
Mais là, la solution, comme vous l'avez dit,
c'est multisectoriel. Qui est limité au ministère de l'Intérieur.
Le problème, ce n'est pas que le ministère de l'Intérieur, Le problème, c'est le régime Tshisekedi, en réalité. Le régime Tshisekedi a failli sur tous les plans. Les jeunes n'ont pas d'emploi. À part le Winner et Paris Foot, il n'y a rien d'autre. S'ils ne font pas 21-21 ou 20-20, ils ne mangent pas. Et parce que plus on grandit, plus on a des besoins qui se multiplient. Et je termine. Et donc,
vous l'avez dit. Donc, nous ne discutons pas sur cette question. Vous m'avez envoyé les questionnaires.
Je peux te protéger.
Non, vous l'avez dit.
Nous sommes sur une question de la sécurité.
Vous n'êtes pas politique. Voilà.
Donc, je peux l'être. Mais ici, j'ai été invité pour parler de la
crise. Il m'a coupé la parole.
Et donc, je ne viens pas pour dire que le régime a échoué ou a réussi.
Non, vous avez tout à fait raison.
Je ne suis pas pour ça.
Lui, il est dans son rôle d'opposant.
Non, mais ce n'est pas ça le
choc des idées.
Deux fois, vous permettez certaines choses et vous ne donnez pas l'opportunité à ceux-là qui nous suivent de vraiment cadrer la question. Mm-hmm. Ici, on n'est pas venu pour parler du régime Tshisekedi.
Évidemment.
Alors, même en tant qu'opposant, parce que nous sommes passés tous, nous avons eu le temps d'être dans un parti politique.
Vous avez suivi son raisonnement.
Dans un parti politique, on vient aussi pour éduquer la population ou la masse.
Vous avez suivi son raisonnement.
Donc, il n'est pas dit en conclusion parce que vous avez fait ceci et que les autres ont totalement échoué.
Non.
Mais le prof l'a dit. Non,
vous n'allez pas interdire à un opposant d'évoquer cela.
Non, mais ici, on ne parle pas
de son rôle.
Non. J'aurais aimé qu'il parle rien que d'abord de la criminalité.
Pourquoi ça semble gêner?
Mais voilà, non, ça ne me gêne pas, mais je l'ai dit, je ne suis pas sur un plateau politique, moi.
Ok.
Je le dise.
Ok. Est-ce que on a compris. Oui, allez-y rapidement, parce qu'on a pris
assez. Il a étudié comme moi. En sociologie, qu'est-ce qu'on dit? Les faits sociaux sont totaux et globaux. C'est lui qui a dit que la criminalité est un fait social, est un phénomène social. Et je suis dans la société. Parce que le professeur a dit qu'il y a des facteurs également sociaux qui contribuent à cette recrudescence de la criminalité, n'est-ce pas? Bon, et quand je touche les phénomènes sociaux qui impactent et qui conduisent ou qui sont criminatogènes, je ne sais pas pourquoi.
Notamment la pauvreté.
Laissez-moi terminer.
Oui, allez-y rapidement parce qu'on est.
Les jeunes sont désœuvrés, les jeunes sont abandonnés. Le régime Tshisekedi avait promis 6 millions d'emplois. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Ces jeunes gens-là, qui n'ont pas d'occupation, puis on grandit, puis on atteint 18 ans, 20 ans, puis les besoins également grandissent, et puis ils doivent combler ces besoins. Et donc, du coup, ils ont tendance à aller chercher là où ils peuvent trouver de l'argent facilement.
On a
donc,
compris.
Je ne sors pas du débat. Je suis dans le débat pour vous expliquer que les facteurs sont multiples. Mais également, la façon de le faire. Il y a le ministère de l'Intérieur, il y a qui fait partie d'un gouvernement, il y a le ministère de l'Emploi et Prévoyance sociale, il y a le ministère
de la Justice, il y a
un tenant de compte.
Voilà.
Le professeur a évoqué les facteurs, par exemple, le rôle de la prison. Par exemple, ici à Kinshasa, on parle de CPRK, Centre de rééducation. Moi, Chaloup était en prison en 2011-2012. Moi, j'y allais chaque jour. À part qu'on met les gens dans entre 4 murs, le rôle, la prison ne remplit plus son rôle de rééducation.
Okay.
C'est-à-dire que quand quelqu'un va en prison, par exemple un criminel, il faut mettre également des écoles de métiers en prison.
Il semble se
radicaliser davantage. Nous apprenions aux prisonniers comment faire la plomberie,
okay, merci.
Comment faire la maçonnerie.
On a compris.
Et certains prisonniers quittaient la prison et une fois rentrés, une fois sortis,
ils étaient
réintégrés dans la société.
Merci.
Ça, c'est aussi un facteur que le professeur a souligné que je voulais épingler et surtout insister.
Donc, merci.
Et ici, professeur, globalement, c'est le régime Tshisekedi qui a échoué dans sa mission de protéger, dans sa mission de créer des emplois, dans sa mission de réinsérer les Congolais
professeur
qui se méconduisent dans la société.
Professeur Ildefonso Tshinyama, vous allez réagir à la réflexion de notre auditeur qui appelle depuis la ville de Kisangani, c'est Albert Kolembela.
Albert Kolembela Bokomba, depuis Kisangani dans la province de la Tshopo. Le banditisme urbain a atteint un niveau insupportable
qui nécessite l'implication de tous les Congolais. La police nationale congolaise est-elle capable d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens? La police nationale congolaise a-t-elle un problème logistique? Y a-t-il la démotivation dans les chefs de la police? Y a-t-il la complicité des agents de l'ordre dans cette insécurité? Si nous enregistrons la persistance de l'insécurité, d'aucuns ignorent le niveau de l'impunité et de la corruption qu'a atteint notre pays. À mon avis, il serait important d'identifier les acteurs intellectuels de ces braquages, car il s'avère que ces derniers ont des soutiens tant au niveau politique que de la justice.
Professeur Ildefonso Chinyama, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur, hein, oui. Mais aussi, comme nous sommes à la fin de l'émission, hein, proposer des pistes de solutions. Comment faire pour sortir de cette situation? Peut-être qu'on ne peut pas éradiquer, comme on le dit, mais est-ce qu'on peut réduire quand même ces phénomènes-là? Allez-y, professeur.
Oui, bon, évidemment, quand on parle d'une criminalité organisée, c'est vrai qu'il peut y avoir une part de certains agents plus ou moins qui sont aussi, qui ont un pied dans la délinquance. C'est tout à fait normal et ça se passe partout au monde comme ça. Mais alors, ce que doit faire un pays, c'est justement de prendre conscience que ce phénomène existe et qu'il faut mettre en place de moyens pour gérer cette criminalité. Et ces moyens vont de la formation, de l'équipement, mais surtout d'une politique générale au niveau national, c'est-à-dire la question, par exemple, de la politique de l'emploi des jeunes, ça c'est important. Une jeunesse qui n'a pas à faire va être dans la délinquance généralement. Et alors, bon, la complicité, je sens qu'on insiste sur ça, et j'entends toujours dire la situation du général Maïre, mais est-ce qu'il a toujours raison sur tous les points? Si la criminalité n'est pas éradiquée, est-ce que ça signifie toujours qu'il y a des complicités à l'intérieur? Non, mais il existe plusieurs facteurs, ça c'est un facteur parmi tant d'autres liés aux questions organisationnelles à l'interne. Mais plusieurs facteurs peuvent faire, par exemple, je dis ici, les dysfonctionnements judiciaires peuvent faire que, même quand vous avez une police efficace, mais quand les judiciaires ne suivent pas, même quand il n'y a pas complicité des gens à l'interne, de la police ou des services de sécurité, mais on aura toujours une délinquance qui monte. Il existe plusieurs facteurs.
Merci.
Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, les pistes de solutions, il y en a beaucoup, hein. Mais maintenant, il appartient au ministre de l'Intérieur qui gère la sécurité de dégager une politique criminelle. Est-ce que nous avons au niveau du pays une politique criminelle au niveau national?
Merci.
Je dois vous avouer que nous avons fait un peu.
Cette politique existe, mais maintenant, une chose c'est d'avoir une politique, une autre c'est de l'appliquer et de se donner les moyens pour l'appliquer.
Merci.
Mais est-ce que le moyen. On peut incriminer le ministre de l'Intérieur et est-ce que tout dépend toujours de lui?
C'est un
système qui fonctionne, oui.
Merci, professeur. On a compris. Monsieur Jeff Lushima, nous sommes à la fin de l'émission, vous allez conclure. Hein. Qu'est faut-il pour combattre efficacement ces phénomènes de braquage en RDC? C'est votre conclusion. Nous sommes à la fin de l'émission.
Je remercie l'apport du professeur. Je remercie même les dénonciations de mon frère Epengue. Mmh. Et je l'ai dit un peu en conclusion, il y a récemment avec l'université de Kinshasa, le ministre Jacquemin Chabani a signé un accord avec l'école de la criminologie pour apporter des solutions et des réflexions dans ce sens-là, comment on peut arriver à éradiquer ce phénomène-là. Et donc, en conclusion, je voudrais rassurer la population kinoise et même de toute la République que nous avions lancé une opération qui est dénommée Ndobo, et nous avions lancé le comité local de sécurité
qui fait en sorte que lorsque même la police peut être sur le terrain, la population est appelée à participer et à coopérer afin qu'ensemble nous puissions porter notre sécurité un peu plus poussée. C'est ce que je peux dire. Je ne dis pas que les bandes organisées vont disparaître en un clin d'œil, mais néanmoins nous allons réduire sensiblement cette présence-là et nous permettrons à ce que chacun de nous, comme le prince Epenga a épinglé les missions de la police, seront accomplis, même avec l'effectif qui est encore pas totalement à la hauteur de la population, mais nous comptons à ce que lorsque la loi de la programmation sera mise en œuvre, nous pensons ce qu'on n'a pas pu faire il y a une année, ou il y a 18 ans passés, ou même ce que Pengue viendra faire demain s'il va nous remplacer dans les institutions, je trouverai quand même déjà des pistes de solutions.
Merci, Prince Pengue. Vos propositions pour combattre ces phénomènes de braquage en RDC? Allez-y rapidement.
À l'aide des Congolais, la Moka, nous disons il faut donner des moyens à la police et à l'armée. La police n'a pas assez de moyens financiers, matériels. Un policier qui n'a pas reçu sa ration, vous lui demandez d'aller intervenir, soit il intervient mal, soit il n'intervient pas. Donc il faut donner des moyens matériels, il faut donner des moyens financiers à la police et à l'armée. Mais là où je suis d'accord avec notre confrère, avec mon frère de l'Union Sacrée, on ne peut pas être divisé sur tout.
Le conseil du ministre.
Là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'il faut que la population coopère. Il faut que la population participe. Parce qu'in fine, c'est elle, d'elle qu'on parle ici.
Voilà.
Donc je vois que dans certaines communes, on a un système de sifflet où la population s'est partagée les sifflets dans une avenue. Il faut que dans toutes les avenues de Kinshasa, dans tous les quartiers, qu'ils achètent des sifflets. Quand votre voisin t'attaque la nuit, quand votre une boutique est cambriolée, que vous puissiez siffler pour que l'autre entende, mais en même temps, il faut que même si les gens sifflent, mais si la police n'a pas les moyens d'intervenir, ça pose un problème. Donc, vous voyez que nous sommes tous concernés, et les policiers, et la population. Mais le braquage de la Rosbanque nous a prouvé les insuffisances de notre système de sécurité, où on a vu les gens intervenir, les gens tirer à l'air, ça, dans n'importe quelle direction. Les policiers qui étaient arrivés avant à la Rosbanque ont été arrêtés par ceux qui sont venus par après, parce qu'on ne sait pas qui fait quoi, et on arrête quelqu'un, tout de suite on commence à le filmer, on commence à avoir ses témoignages, alors qu'on devait l'amener caché même son visage pour aller l'interroger.
Donc
il faut qu'on professionnalise notre système de sécurité. Pour un pays qui a 9 voisins, un pays qui est agressé, on a besoin de l'ordre à l'interne.
Merci. C'est important. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Et merci à tous les auditeurs, n'est-ce pas, qui sont intervenus dans cette émission. Merci aussi à Enoch Katumbi qui l'a réalisé, Pierre Diassino et Diédoné Nyangasa qui est à la technique. Et Glody Tutonda et Fideli Tchela ont assuré le live de ces magazines, à la présentation Guy Maté. Merci encore et restez branchés, connectés sur Radio Capi.